La vie même de Las Casas n'est pas exempte de contradictions, je voudrais la rappeler très brièvement. N'oublions pas qu'elle est marquée par une rupture qui se situe très exactement en 1514. Bartolomé Las Casas, né à Séville en 1674, avait pour père un ami de Colomb, Francisco, qui part avec lui, avec Colomb, lors de son second voyage. Bartolomé gagne lui-même Saint-Domingue par la suite. Il aurait participé à la conquête de Cuba sous les ordres de Velázquez. Et chose curieuse, Las Casas administre ensuite un domaine que son père Francisco possédait dans l'île d'Haïti. Il se conduit alors en véritable homme d'affaires et la fortune lui sourit. Mais n'oublions pas qu'en même temps, c'est un clerc mineur puis majeur, il devient prêtre en 1510. Ce qui ne l'empêche pas, tout en étant prêtre, de continuer à jouir du système de l'encomienda, légalisé dès 1503 par une cédule de la reine catholique. Il est heureux au milieu de ses plantations, entouré de ses Indiens. Mais il n'a rien d'un curé de campagne européen. Ce premier prêtre ordonné dans le Nouveau Monde a célébré sa première messe au moment de la Fonte. Réjouissance minière, si vous voulez, un peu comparable à la fête de l'engrangement des moissons. À cette occasion, à l'occasion de la première messe de Las Casas, sont fondues des imitations de pièces d'or, et je cite ici Bataillon, et jamais Las Casas n'a pensé que sa Missa Nueva eût été maudite pour autant. Mais dès 1511, un père dominicain, Montesinos, prononce un sermon révolutionnaire que Las Casas d'ailleurs reproduira par la suite. C'est grâce à Las Casas que nous le connaissons. S'adressant aux colons, Montesinos les accuse de tuer les Indiens en voulant que chaque jour apporte son or, ce qui évidemment provoque une vive réaction de la part des conquérants. Ferdinand V lui-même s'inquiète de ce propos et le supérieur péninsulaire de l'ordre désavoue les attaques de Montesinos. Cependant, l'ensemble des Dominicains ne désarme pas et l'un des moyens les plus énergiques pour faire céder les colons réside dans l'interdiction d'administrer les sacrements aux encomenderos. L'un d'eux va même jusqu'à refuser d'entendre la confession de Las Casas, parce que ce jeune prêtre, qui est en même temps colon, possède des esclaves. Las Casas médite alors sur sa propre situation et renonce en 1514, date fondamentale, à son domaine qui est pourtant en pleine prospérité. À cette date, bien sûr, Las Casas ne condamne pas d'emblée le régime colonial. Il s'efforce avec passion, et quelle passion, de le transformer. Malheureusement, les obstacles se multiplient sur la voie des réformes. L'échec des Hiéronymites à Saint-Domingue, l'insuccès de la colonisation pacifique à Cumana conduisent Las Casas à des réactions de plus en plus radicales. Finalement, en 1522, on peut retenir cette date également, Las Casas revêt l'habit blanc de Saint-Dominique et entre en croisade officielle, pourrait-on dire, contre les colons. Il semble qu'il franchisse 15 fois l'océan, 12 fois au moins, 15 fois peut-être, l'océan pour aller à la cour de Madrid plaider la cause de ses protégés. Et c'est sans doute, les historiens pensent, que c'est d'après ses conseils que furent publiées les lois nouvelles, beaucoup plus favorables aux Indiens, de 1542. Son combat en faveur de la cause indienne ne cesse pas. Il culmine en 1550-51, lors de la grande dispute devant les juges du roi à Valladolid contre le théologien Ginés de Sepúlveda, champion, lui, de la soumission totale des Indiens. Les juges, évidemment, sont prudents, ils se gardent bien de trancher, et le débat restera ouvert dans la conscience espagnole. Mais, à cette même date, en 1550, Las Casas démissionne de sa charge d'évêque, puisque il ne peut, je cite, « empêcher que ses brebis espagnoles ne dévorent ses brebis indiennes », selon l'expression rapportée par Latorre. Et Las Casas finira sa longue vie, 92 ans, à Madrid en 1566. De sa conversion en 1514 à sa mort, Las Casas a beaucoup écrit, mais il ne semble pas que sa doctrine ait changé. La meilleure preuve, c'est qu'il répond à un questionnaire que lui adresse un religieux scrupuleux du Pérou, ce fameux 12 problèmes concernant les affaires du Pérou. Réponse rédigée donc 2 ans avant sa mort. Les conclusions qu'il expose alors sont exactement les mêmes que celles qu'il avait exposées après son échec de colonisation pacifique à Cumaná. Son argumentation, donc 2 ans avant sa mort, est peut-être plus complète. Elle est mieux étayée par une argumentation de plus en plus serrée, appuyée sur des affirmations de plus en plus percutantes. Et c'est sur ces affirmations que nous allons nous pencher maintenant, en nous posant la question sur laquelle les historiens ont donné des avis divergents. Las Casas est-il un réaliste préoccupé de questions et de problèmes concrets, ou au contraire, est-il un idéaliste préconisant des solutions irréalisables en pratique ? Las Casas réaliste. Mon confrère et ami Pierre Chaunu insiste sur le caractère pragmatique de Las Casas, qui, je cite, « ne remet pas en cause le droit de l'empereur roi des Indes d'Amérique. Il est à la fois trop réaliste, trop soucieux du possible, pour envisager un autre remède que le seul possible, parce que ce violent et ce passionné est au meilleur sens du mot un modéré, un réaliste et un homme de cœur. » Vous voyez, en 4 lignes, Chaunu emploie le mot réaliste. Il est vrai qu'il y a un certain aspect réaliste dans la pensée de Las Casas et dans l'action de Las Casas. La meilleure preuve, c'est que, comme tous les réalistes, Las Casas utilise le droit pour justifier ses prises de position. Le père Venancio Caro le classe à ce propos dans une véritable série de théologiens juristes qui restent évidemment très attachés au thomisme. Bien entendu, dans ses raisonnements, Las Casas ne néglige pas les bulles pontificales de l'époque, ça va de soi. La bulle Sublimis Deus de 1537, qui a été suggérée d'ailleurs au pape par un dominicain du Mexique, je cite, « Les Indiens, même s'ils vivent hors la foi du Christ, ne doivent être privés ni de leur liberté, ni de la possession de leurs biens. » Mais l'essentiel de l'argumentation de Las Casas est bâti sur des références aux canonistes et aux glossateurs médiévaux. Il cite, et je mets de côté les canonistes que nous connaissons tous, il cite parmi les romanistes aussi bien Balde que Bartold. Bartold, qui, nous dit-il, nous fait voir qu'il y a des peuples avec qui nous n'avons rien à démêler, ni pour la paix, ni pour la guerre. Et ce faisant, Las Casas est dans la droite ligne du cardinal Tomás de Vio Cajetan, ancien maître général des Dominicains, qui affirmait dès 1517 « Nec semus legitimi domini lorum, sed magna latrocinia committeremus ». Vous voyez les expressions particulièrement sévères en latin. Et on retrouve les termes mêmes de l'argumentation des bartolistes et des autres romanistes dans les termes de Las Casas qui les reproduit textuellement pour justifier ses prises de position. Bon, n'insistons pas sur les références extrêmement nombreuses au droit canonique ou romain du Moyen-Âge. Notons cependant que toutes ces références présupposent une base institutionnelle fondamentale qui n'est autre que la reconnaissance de ce qu'il est convenu d'appeler depuis plusieurs siècles déjà la théocratie pontificale. Certes, Las Casas n'emploie pas le terme, bien entendu, et il ne le dit pas expressément, mais par exemple, il reconnaît que c'est légitimement, légalement, que, je cite, « les papes ont accordé la souveraineté des Indes au roi de Castille et de Léon, par la bulle Inter Cetera de 1493, Alexandre VI n'a-t-il pas proposé et imposé un nouveau partage du monde dans un environnement juridique qui suppose au profit du pape un pouvoir temporel indirect, rationné peccati, ou même, dans une certaine mesure, rationné fodi. Et lorsque Las Casas parle du don que les papes ont fait de l'Amérique à nos rois, il raisonne par rapport à la pensée médiévale, et ici il est en opposition très nette, je n'aurai pas le temps de faire l'opposition entre les deux auteurs, bien sûr, mais ici Las Casas est en opposition très nette avec Vitoria, n'est-ce pas, qui lui est un novateur. Si vous voulez, on peut considérer Vitoria comme l'un des premiers auteurs d'une conception internationale nouvelle, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de Las Casas. Et c'est également en se fondant sur un concept très ancien, jusqu'alors admis sans aucune réticence, que Las Casas revendique la compétence des justices ecclésiastiques à l'égard des Indiens. Ce sont en effet ces Indiens des misérables personnes qui ont toujours relevé depuis un millénaire au moins de la juridiction épiscopale. Et si les juges laïcs de l'audience ne font pas droit à sa requête, ils seront excommuniés dans les 3 mois. À plusieurs reprises, ceux-ci devant Colomb, devenu dominicain, assure agir selon sa conscience en se conformant aux 5 canons. Mais, faute de canons récents en ce domaine, c'est évidemment au droit canonique ancien, médiéval, qu'il est obligé de se référer. Réalisme donc appuyé sur le droit, bien conforté par le droit. Mais ce réalisme va guider celui que Bataillon a considéré non comme un saint, mais comme un politique chrétien de grande envergure, avide d'influence et d'action. Et comme tout homme politique, son pragmatisme l'amène à des compromis lorsque les événements le conduisent à transiger avec ses principes juridiques. Ainsi, lors de la colonisation, les conquérants, vous le savez, se sont partagés le pays et ont procédé à la levée de tribus arbitraires. Or, selon les principes juridiques qu'il a exposés et dont je reparlerai dans un instant, Las Casas exige que les colonisateurs restituent ce qu'ils avaient pris. Eh bien, au contraire, là, en l'occurrence, il se réjouit de l'action des commissaires espagnols, envoyés par les rois, qui, selon lui, méritent des éloges, car leur dessein a été d'empêcher la révolte des Espagnols en permettant aux soldats de lever des taxes tarifées. On passe de la taxe arbitraire à la taxe tarifée. Las Casas pense d'ailleurs que grâce à ses commissaires, les contributions qui pesaient sur les Indiens ont été restreintes aux 2/3 de ce qui était levé auparavant. D'ailleurs, difficile de vérifier. Mais pour justifier sa position, Las Casas se réfère à Aristote, selon qui, je cite, « c'est faire un bien que de détruire un mal ou de le rendre plus supportable ». Mais vous voyez la contradiction entre les principes exposés par Las Casas, restitution des biens spoliés qu'il préconise par ailleurs, et l'autorisation officielle de lever des taxes qui, même après la venue des commissaires espagnols, sont encore très lourdes à supporter pour les Indiens. Autre témoignage de son réalisme, lors des instructions qu'il donne aux frères prêcheurs de son diocèse. Il a été en effet évêque de Quiapa. Et il sait qu'il est détesté par les Espagnols. Et il se doute que si les frères prêcheurs qui confessent se réfèrent expressément à ces consignes, les Espagnols ne viendront pas se confesser. Alors que dit-il ? Il conseille aux confesseurs de ne pas se réclamer de lui et de se conformer à ses règles comme, je cite, comme s'ils les lisaient dans un livre ou comme un conseil que leur dicte leur conscience afin d'éviter le scandale. Oui, il sait se retirer lui-même, se mettre au second plan pour que ses idées triomphent. C'est encore, me semble-t-il, c'est encore sans doute le réalisme qui pousse Las Casas à ne pas envisager l'abandon des Indes par l'empereur, puisque selon lui, sa souveraineté est juridiquement incontestable. Raisonnement de Las Casas. Il ne faut pas que les Espagnols fassent obstacle à la foi et à la religion du Christ par leurs œuvres perverses et leurs funestes exemples. Faire, qu'on les expulse donc, mais en choisissant soigneusement ceux qui pourront rester pour convertir les Indiens. Comme ça a été déjà signalé, on n'a pas suffisamment insisté là-dessus, Las Casas n'envisage nullement une évacuation totale des Indes, mais je dirais qu'il envisage une épuration du milieu colonial, tout simplement, qui ne sera d'ailleurs pas réalisé. Mais, tout de même, proche des réalités coloniales, réalistes, Las Casas a obtenu deux succès que tous les historiens, me semble-t-il, ont reconnus sans conteste. Même les historiens comme Menéndez Pidal, qui prennent Las Casas, je cite, pour un paranoïaque. Quels sont ses succès ? D'une part, à plusieurs reprises, le Conseil des Indes a suivi les conseils de Las Casas et l'a soutenu contre ses adversaires. Il a provoqué quelques réformes. D'autre part, il ne faut pas oublier que l'esclavage a bel et bien été aboli au Quiapa, dans son diocèse, enfin le Quiapa c'est une terre assez étendue, n'est-ce pas, qui était autrefois dans le Guatemala, qui est maintenant dans le Mexique, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est grâce à l'évêque Las Casas que sa dénonciation véhémente, que l'esclavage a disparu, pour un temps tout au moins, dans le Quiapa, en 1549. L'autre face de la personnalité de Las Casas est teinté au contraire d'idéalisme. En effet, c'est sans doute le désir profond, irrésistible, du bien, de l'évangélisation, qui explique ces violences verbales, qui elles-mêmes, ces violences verbales, ont donné prise, en compagnie d'ailleurs d'autres auteurs, à la tenace et célèbre légende noire dont nous parlera cet après-midi Monsieur le recteur Durand. Ce saint ou ce monstre, comme on le considère, qui est sans doute, ne l'oublions pas, autodidacte. Las Casas n'hésite pas à charger les Espagnols des pires responsabilités dans la colonisation, donc à leur ôter tout prestige et toute grandeur. L'un des leitmotivs de Las Casas est en effet que les Espagnols ont agi, alors je prends des citations très précises, en vrai tyran. La conduite des Espagnols a été injuste et tyrannique, ainsi que le gouvernement qu'ils ont établi. Fin de citation. Devant les envahisseurs, les Indiens ont incontestablement le droit de se rebeller. Ils mènent une juste guerre contre leurs oppresseurs. C'est le cas même de la guerre légitime prévue par saint Thomas, je cite, « lorsqu'on lutte pour se conserver ou pour rentrer en possession de ce que l'on a injustement perdu ». Mais Las Casas n'hésite pas à aller beaucoup plus loin que saint Thomas. Et j'étais très étonné en l'étudiant, car finalement, Las Casas devance la théorie célèbre des monarchomaques français et étrangers, qui ne viendra que quelques années après. Las Casas affirme, je le cite, que les Américains ont un si juste sujet de guerre contre les Espagnols que chaque individu peut l'entreprendre. Je répète, chaque membre de la communauté peut tuer le tyran ou les oppresseurs. Et bien entendu, si la guerre des Indiens est juste, celle des Espagnols est injuste. Quant à l'esclavage, Las Casas le condamne également. Il interdit aux Espagnols, c'est sa première interdiction, d'acheter des esclaves aux Indiens, et bien entendu de réduire les Indiens eux-mêmes en esclavage. Et là encore, Las Casas heurte l'opinion commune, car la servitude, ne l'oublions pas, est une institution répandue dans le monde entier au XVIe siècle. L'esclavage des prisonniers de guerre est universellement pratiqué, non pas, bien entendu, entre chrétiens, à l'intérieur de la chrétienté, mais dans les relations entre les chrétiens et le monde extérieur. Or, ici, Las Casas est un peu embarrassé, parce qu'il a tout de même travaillé le droit, et l'esclavage est donc l'une des institutions reconnues par le droit des gens, le jus gentium. Alors que fait-il? Eh bien, Las Casas soumet tout simplement le droit des gens, le jus gentium, je le cite, au droit naturel et divin, qui, pense-t-il, lui est supérieur. Donc, l'esclavage ne doit pas être admis, et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous dire que Las Casas ne connaît pas l'expression « droit de l'homme », elle ne viendra que par la suite, mais il n'hésite pas à proclamer que la liberté est l'un des caractères essentiels de l'être humain, je le cite. « La liberté est un droit nécessairement inhérent à l'homme qui découle du principe de la nature rationnelle ». Il s'agit donc d'un droit naturel, partant inaliénable et imprescriptible. Bien sûr, de nos jours, les idées de Las Casas ne nous choquent plus. Mais il est évident qu'aux yeux de ses contemporains, Las Casas n'est qu'un idéaliste dangereux dont les théories pernicieuses ne tiennent aucun compte du droit et des mœurs en vigueur. Si au moins ce dominicain s'était borné à affirmer quelques principes théoriques, mais il va plus loin. De ces prémices théoriques, il tire, par exemple, le devoir de restitution qui s'impose à tous les colons. Imposé à tous, non seulement aux conquérants eux-mêmes, mais tenez-vous bien, aux évêques, aux religieux, qui ont soustrait aux communautés indigènes les terrains sur lesquels ils ont bâti églises et couvents. Même les marchands qui sont visés dans sa diatribe et dans sa doctrine de restitution. Pourquoi ? Parce que les marchands ont contribué d'une manière active à la guerre. Je cite, « Quoi qu'il y en ait parmi eux qui n'ont fourni que des provisions de bouche aux Espagnols qui allaient mourir de faim, je ne crains pas de dire qu'ils sont aussi coupables que les autres. » Fin de citation. Et Las Casas, à la fin de sa vie, n'hésite pas à exiger la restitution des aumônes faites en Espagne au moyen de l'argent pillé au Pérou. L'invraisemblance atteint à son comble à propos des exactions que mon collègue Castaldo a qualifiées d'exactions au second degré. Je m'explique, je le cite d'ailleurs. Toutes les personnes qui ne font rien pour les Indiens et qui se dévouent exclusivement au service des Espagnols se rendent coupables de péchés mortels et sont tenues de faire la restitution de ce qu'elles ont reçu comme salaire, indemnité, gratification ou présent. Donc si vous travaillez pour les Espagnols, même si vous n'avez rien à faire avec les Indiens, vous êtes tenu à restitution. Bien mieux. Le roi lui-même n'échappe pas au raisonnement de Las Casas. Il est pris directement à partie. Je cite, « Il est strictement obligé au devoir de restitution, car c'est à lui de réparer les torts causés par le mauvais choix de ses officiers. Je dis qu'aussi longtemps que le prince restera à cet égard dans l'indifférence, il sera coupable au même titre que les auteurs du pillage, de la tyrannie et des massacres. Et le moyen que préconise Las Casas pour sortir de la situation au Pérou est pour le moins étonnant. Je rapporte brièvement son raisonnement. Il faut réintégrer l'Inca et les autres seigneurs péruviens dans leurs droits politiques, en leur restituant leurs biens. Ils sont d'ailleurs prêts à se convertir. Ils promettront fidélité au roi de Castille. Ils verseront un tribut annuel à l'Espagne, etc., etc. D'ailleurs, le prince Tito n'a-t-il pas, qui s'est réfugié dans les montagnes, n'a-t-il pas assuré le proviseur de Cusco qu'il reviendrait avec sa famille si on lui donnait de quoi vivre ? Je cite, « Telle est la marche que le droit naturel et le droit divin, encore, prescrivent de suivre au roi d'Espagne pour acquérir la souveraineté des Indes d'une manière juridique et pour légitimer leurs possessions actuelles. Le souverain espagnol aurait été, selon Las Casas, un empereur au-dessus des rois locaux. » Vous voyez que le jeune colon, une fois converti, s'est donc forgé au cours des ans une idéologie qui aboutit, qui aspire à un idéal éthéré, sans rapport avec les impératifs coloniaux, ni même avec le droit et les mœurs du XVIe siècle. Je ne citerai qu'un exemple, mais on pourrait les multiplier. À Ciudad Real, en 1545, le doyen Quintana, je prononce à la française, c'est un chanoine que Las Casas avait amené avec lui de Séville, donc quelqu'un en qui théoriquement il avait confiance. Mais ce n'est pas un dominicain. Quintana donne l'absolution aux Espagnols qui possèdent des esclaves. C'est contre la théorie de Las Casas. contre, il refuse l'absolution aux Espagnols qui possèdent des mines, etc. Et son raisonnement est le suivant. Catana dit, je ne vois rien dans le droit canon qui concerne ce cas. Et il a raison, il n'y a rien dans le droit canon médiéval. Alors que fait Las Casas? Eh bien, le prélat lui rétorque, non pas qu'il se moque du droit canon, il ne se réfère pas au droit canon. Las Casas lui rétorque qu'il s'agit là de péché mortel et déclare le chanoine Catana excommunié, ce qui provoque évidemment une petite révolution sur place. Parce que Las Casas est tellement mal vu que le doyen va soulever la population du village contre lui. Voyez, finalement, réalisme et idéalisme poussés par la passion de l'évangélisation. Pour lui, toutes les œuvres humaines doivent être inspirées par la morale chrétienne. Et pour lui, la morale ne se réduit pas à une science des mœurs, bien entendu. La morale ne se réduit pas, encore moins pourrait-on dire, au strict respect du droit positif, laïque ou canonique. À maintes reprises, j'en ai cité que deux fois, mais à maintes reprises, Las Casas se réfère au péché mortel, ce qui relève du fort interne, et non pas à la faute juridique, ce qui relève du fort externe. La dialectique lascasienne est d'essence morale, comme l'a souligné le regretté père André Vincent. Et la morale que suit Las Casas, il l'appelle, on pourrait discuter, mais nous n'avons pas le temps et ne nous lançons pas dans de tels sujets, sa morale, Las Casas l'appelle droit naturel et divin. Voyez-vous. Alors, sa morale, il l'a traduit à la fois dans les actes de la vie quotidienne, ce qu'il a mis en œuvre, n'est-ce pas, dans une grande mesure, n'est-ce pas, et notamment au Quiapa, mais sa morale, il l'a traduit dans une exigence de justice et d'amour plus haute et plus universelle. Ce qu'il rêve, pour ainsi dire, ce que rêve notre héros. Et sur ce point, bien entendu, il ne pouvait être ni compris, ni suivi par ses contemporains, et sur ce point encore, il susciterait une controverse encore actuelle entre les historiens. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le conférencier de sa brillante conférence et j'ouvre la discussion. Alors, mon éminent collègue, monsieur le Fèvre.
Monsieur le Président, au fond, vous avez tout à fait d'accord avec vous. Mais la conséquence juridique de la pensée lascasienne, c'est quand même les lois des Indes qui vont lui donner raison et qui sont promulguées par la royauté à partir de 1555. Et aussi, je crois que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a contribué quand même au grand débat anthropologique. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais quand même, là, on peut l'employer pour savoir si l'Indien était un homme capable de recevoir la religion catholique comme un autre, ou un être inférieur qui ne peut pas recevoir la religion catholique, qui est le grand débat de l'université de Salamanque dans les années 1440. Et quand même, la couronne a tranché dans le livre.
Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec des hauts et des bas dans l'application de la doctrine. Et certains historiens modernes ou certains sociologues qui sont beaucoup plus éthérés que les historiens considèrent que Las Casas a été l'un des premiers, sinon le premier, à préconiser une politique d'acculturation. Enfin, pour ma part, on peut considérer, dans une certaine mesure, qu'il s'est efforcé, justement, de comprendre les Indiens et de leur préserver leur culture face... Enfin, on pourrait discuter à perte de vue, mais vous avez absolument raison. L'influence, je l'ai dit à la fin de ma première partie, il est évident que Las Casas a eu une influence sur le plan général par ses interventions dans la cour, n'est-ce pas, et dans les différents conseils, et qu'il a eu une influence immédiate en supprimant l'esclavage dans son propre diocèse de Quiapá. Merci beaucoup. Autre intervention, cher recteur.
Oui, en faisant la liaison avec la conférence de Jean-Paul Le Flem, il y a quand même un problème qui surgit tout de suite, c'est est-ce qu'on s'est posé la question du rapport entre les doctrines de Las Casas à propos des Indiens et ce qu'on a vu, examiné tout à un instant, avec le judaïsme et les morisques en Espagne. Est-ce qu'il s'est posé lui-même le problème de cette contradiction? Si on le suit en ce qui concerne les Indiens, qui sont des personnes pour lesquelles on pouvait se poser le problème s'ils n'étaient pas analogues aux barbares, par exemple, vis-à-vis du monde hellénique, c'est-à-dire des gens quand même qui étaient en dehors presque du monde humain, est-ce qu'il s'est interrogé sur le fait que l'on devrait, non pas supprimer peut-être l'Inquisition, mais au minimum laisser la liberté aux judaïsants d'exercer leur religion en Espagne, si on porte jusqu'au bout ces thèses? Est-ce qu'il y a quelque chose concernant d'autres phénomènes dans toute son œuvre qui est abondante, autre chose que le débat espagnol-indien?
Écoutez, je n'ai pas la prétention d'avoir tout lu. Il a une production colossale, n'est-ce pas? Et depuis sa production historique jusqu'à ses prises de position théoriques. Et je n'ai rencontré aucune allusion au problème qui se pose dans l'Espagne de son temps, n'est-ce pas? Remarquez qu'il y a des périodes d'ombre dans sa vie. A-t-il eu, comme certains le pensent, et je le pense, des relations avec Victoria? Mais très peu, très peu. Donc, j'ai osé avancer, mais là, j'espère que je ne me fais pas trop critiquer, j'ai osé avancer que c'était un autodidacte, plus qu'un intellectuel formé dans les universités. C'est un excellent autodidacte, en ce sens que, manifestement, il a bien travaillé le droit canonique et le droit romain du Moyen-Âge. Le droit savant, comme dirait notre maître Le Bras, n'est-ce pas? Mais je ne vois rien, a priori, dans ce que j'ai lu, mais je n'ai pas tout lu de Las Casas. J'ai beaucoup lu sur ce qui a été écrit sur Las Casas, on n'en parle jamais.
C'est pas que ce... Il y avait l'esclavage des Noirs.
Ah! C'est un problème, là, et il admet l'esclavage, c'est en contradiction. Vous savez, on pourrait trouver, enfin, si on avait le temps, on pourrait passer une journée à noter toutes les contradictions internes dans la doctrine de Las Casas, n'est-ce pas? Il interdit d'acheter des esclaves des Indiens, il interdit de réduire les Indiens en esclavage, et vis-à-vis des Noirs, remarquez qu'il faudrait aussi très exactement dater l'arrivée des Noirs. Et c'est pas tellement facile. C'est pas tellement facile. Et je me demande si, justement, il a réalisé l'immensité des transferts de population qui allaient avoir lieu. C'était pour lui peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour lui c'était un problème secondaire et il ne s'y est pas attaché, cher ami.
Plutôt l'intention d'en parler,
ah bon, alors.
Mais sans aucun doute il a réalisé, car les transferts étaient tellement importants.
Déjà.
Ça ne pouvait pas lui échapper. Oui. Ça commençait vers les années 1460 déjà, avec les Portugais au Londres, oui. Et il savait ça.
Et il a laissé tomber.
Il n'était pas en train d'évangéliser les Noirs.
Oui. Procédons par ordre. D'abord les Indiens, ensuite les Noirs. Y a-t-il d'autres observations, monsieur? Comment? Je n'ai pas entendu du tout. voulez. En Espagne, il n'a jamais été aboli. En France, en France, vous avez des esclaves encore sous la Régence, en 1720, bien connu. On expose des esclaves noirs sur la place du Palais Royal, et on les vend. Jusqu'à ce que, finalement, la royauté décide que tout esclave qui pénètre dans le royaume de France est libre. Ce qui sera fait quelques années après, parce que ça scandalisait les gens de voir vendre des êtres humains. Mais je ne sais pas pour l'Espagne à quelle date ça s'est produit, peut-être au 17e, 18e, mais en tout cas pas à l'époque de Las Casas.
Je crois que c'est au temps du père de l'empereur, de Joseph. C'était dans l'air. C'était dans l'air sous Charles IV, assez discrètement, au temps de Bonaparte.
Oui, remarquez que en France, nous connaissons le problème du servage. Et le servage n'a été aboli sur les terres du roi de France que fort tard, en 1786-87, il me semble, par là.